Donc le débat de ce matin, c'est le premier débat, donc bienvenue. On a pensé que pour cette fête du libre, il fallait de la musique, plein de choses, de la cuisine libre, mais aussi un petit peu de parlotte et un petit peu de réflexion. Donc on a entamé ce premier débat avec l'informatique, sur l'informatique libre. Alors bon, on va essayer d'être un peu à la portée d'une part des utilisateurs, des gens qui aimeraient passer par exemple sous Linux, et qui ne le font pas pour diverses raisons, et on va essayer d'être aussi intéressant pour les programmeurs, il y en a quelques-uns, et puis pour les gens qui ne sont pas du tout informaticiens, ou qui n'utilisent même pas l'informatique, ou qui se refusent à l'informatique, on va quand même leur expliquer la philosophie du libre qui s'est mise en place depuis 10 ans au moins, même plus, 15 ans, dans la communauté du libre. Voilà. Alors, autour de ce micro, autour de cette table, la crème des activistes de l'Ouest d'abord, et puis un peu du Sud. Alors, il y a Yostral, qui est modérateur et contributeur, s'il vous plaît, au site Framasoft, qui est un site de référence pour les utilisateurs de logiciels libres, en France en tout cas, un des premiers sites au niveau importance. Ensuite, nous avons Yannick, qui s'occupe du cybercafé, puis qui est donc animateur de les laboratoires à Rennes au sein du collectif Village. Je ne sais pas si je présente bien. Ensuite, plusieurs Benjamin. Benjamin du site Veni Vidi Libri, qui est un site qui diffuse les licences libres, c'est son objectif. Ensuite, nous avons Philippe, et qui se présente, lui, comme développeur de logiciels libres, mais qui est un grand tâtonneur et activiste de tous les sites intéressants. Il est collaborateur du site AmDesigner, dont on parlera tout à l'heure, et puis d'autres projets fort intéressants et très de base, comme par exemple la distribution Debian. On aura ensuite Gilles, justement, de AmDesigner, ce site qui a pour objectif de mettre à votre portée les logiciels de création vidéo et audio sous Linux, sous licence libre pour les artistes nombreux de l'auditoire. Ensuite, on aura Christophe d'Actux. Alors Actux, c'est un groupement d'utilisateurs de logiciels libres, et Actux se trouve à Rennes. Le but de ces groupements d'utilisateurs, c'est de diffuser évidemment tout ce qui se passe au niveau des logiciels libres. Tout ça, c'est informatique. Également Erwan, il n'y est pas. Alors il n'y a pas Erwan qui était d'Actux, par contre il y a Benjamin qui est également d'Actux Rennes, et puis j'espère que j'ai oublié personne, Florence à mes côtés qui est de Marseille, qui fait partie d'une association d'utilisateurs de Linux à Aix-en-Provence qui s'appelle Axul, et puis également de Marsnet à Marseille. Marsnet, un sous-marin, on dira, de Nolog et de
Globenet,
voilà, un des premiers réseaux associatifs et libres, on peut dire, français. Alors, on avait plein de choix pour aborder, on ne veut pas être obscur, donc on va, par exemple, se poser la question, bête, et si je la retrouve, de savoir pourquoi vous n'êtes pas tous sous Linux alors que vous adorez la philosophie du libre Et on pourrait se poser la question comme est-ce que c'est MSN, est-ce que c'est Google, est-ce que c'est MySpace, est-ce que c'est Microsoft ou Mac qui font avancer les choses, hein, est-ce que nous, les partisans des logiciels libres, on est à la traîne, c'est peut-être la question qui se pose au grand public ou qui n'entend pas beaucoup parler des logiciels libres en tout cas. Alors, qui c'est qui veut un petit peu lancer la réflexion ?
Yannick. Pas forcément lancer la réflexion ou poursuivre sur ce thème, mais en même temps, moi, pour dire simplement que je pense pour beaucoup d'entre vous, Linux est encore quelque chose, une distribution pour une certaine élite ou pour des utilisateurs avertis, déjà avertis. Je pense que maintenant, selon les besoins que l'on a aussi, on peut arriver maintenant à accéder à des systèmes libres tels GNU Linux assez facilement, depuis peu, il faut le dire, faut être honnête, depuis une petite année, ça commence à être accessible, on va dire, aux débutants, aux personnes qui n'y connaissent rien. Ça commence doucement, c'est agréable maintenant, on peut arriver à accéder facilement à une installation et un usage classique, multimédia, de son ordinateur sous libre. Et c'est là-dessus que moi je voudrais éventuellement être sûr de pouvoir appuyer ou de pouvoir renseigner, rassurer les personnes sur le fait que, effectivement, avec ces OS-là, ces distributions-là, on a sûrement besoin d'être un utilisateur averti, mais il ne faut pas croire qu'on va devoir devenir informaticien pour avoir un ordinateur multimédia sous Linux à la maison, je pense. Après, si quelqu'un veut poursuivre.
Alors il y a deux questions. Il y a la difficulté déjà de comprendre l'informatique, ce qui est déjà un problème pour pas mal de gens. Et puis après l'informatique de qualité libre. Donc pour la première question, moi je vais pas vous cacher, l'informatique c'est compliqué, que ce soit libre ou pas. C'est pas un truc clé en main comme une télé où on allume et puis pof, il y a les pubs qui défilent quoi.
Je dis ça parce qu'il est développeur de logiciels donc.
Non, mais l'informatique c'est toujours la technologie, il faut pouvoir l'appréhender pour pouvoir l'utiliser. Donc la question c'est, il va falloir faire un effort, mais est-ce qu'on va faire un effort uniquement pour satisfaire des fournisseurs de logiciels, ou est-ce qu'on va faire un effort pour aller dans le sens de ses convictions et répondre à ses besoins. Donc les logiciels libres, ils permettent de faire tout un tas de choses, peut-être pas toutes de la même façon, mais permettent de faire des choses qui sont pas possibles sur des logiciels propriétaires et vice-versa. Donc s'il y a un investissement à faire, ça vaudrait peut-être le coup d'essayer de bien le faire, quoi. Et pas perdre du temps à apprendre des choses et se rendre compte qu'en fait c'est pas du tout ce qu'on voulait et au final se forcer à oublier ce qu'on a appris pour pouvoir apprendre autre chose et etc. Bon, ça fait les erreurs qu'on apprend, c'est bien, mais nous on est là aussi pour guider, essayer de montrer un peu la voie, que les gens se cassent le moins les dents possible et ne soient pas rebutés par la technologie en soi. Parce que la technologie c'est quand même quelque chose de formidable, simplement il faut savoir ce qu'on veut en faire, quoi. Et pas là que la technologie choisisse ce qu'on va en faire.
Je crois que d'abord, il va falloir faire un bref historique de ce que c'est avant que tout le monde se mette à la page. Donc, vous avez tous en tête vos images de vieilles science-fiction, Star Trek, etc., où vous avez des gros magnétos à bandes qui occupent énormément d'espace. C'est les anciens ordinateurs des années 40-50. À cette époque, le matériel coûte énormément cher. Donc, en fait, il y a plein de développeurs qui vont faire travailler tous ces composants électroniques ensemble. Et ces développeurs travaillent gratuitement, c'est-à-dire dans le sens libre, pas gratuitement parce qu'ils sont payés pour faire fonctionner ces machines, mais pour faire fonctionner ces machines, ils utilisent un code source. Qu'est-ce que c'est qu'un code source ? C'est simplement un langage compréhensible par l'humain, c'est-à-dire de l'anglais, de la logique et des mathématiques. Ensuite, pour pouvoir que ça soit compris par des machines, on transforme ce code source, donc ce langage humain, en langage binaire. C'est-à-dire le courant ne passe pas, avec une horloge qui cadence. Tout ça. Voilà. Et ça comprend, et les cartes électroniques comprennent ce système-là.
Or, ce qui se passe, c'est que avec les lampes et ensuite le transistor, en fait, le matériel coûte de moins en moins cher. Et pour les sociétés, en fait, elles ont besoin de gagner de l'argent. Et en fait, tout ce qui va être intelligible par l'homme, on va le mettre sous un coffre, dans un coffre-fort. Et ça va devenir sous un code de la propriété intellectuelle. Donc, le code source devient propriété intellectuelle. Ensuite, pour pouvoir traduire ce code source en langage binaire, ça va être des codes de brevets, donc de propriété industrielle. Donc ça va être déjà deuxième droit. Ensuite, vous allez avoir le troisième droit, c'est le droit d'utilisation. À partir des années 70, on va avoir IBM, Microsoft, Apple, qui ont décidé de tout mettre sous code, le code source, sous coffre-fort. C'est-à-dire que lorsque vous utilisez un logiciel du type Apple ou Adobe ou Microsoft, en fait, vous avez le droit d'utiliser le binaire, tout simplement. Vous installez votre logiciel, vous le mettez dans la machine, c'est du 0 et du 1, ça marche ou ça marche pas, et vous allez vous plaindre à votre distributeur du logiciel. Le truc, c'est que, en fait, dans les années 83, quelqu'un chercheur et quelques enseignants américains commencent à se dire « Mais qu'est-ce qu'on va apprendre à nos étudiants ?» C'est-à-dire utiliser un mode d'emploi ou apprendre l'informatique. C'est-à-dire on n'a plus le droit au code source, donc on leur apprend quoi ? Un mode d'emploi et utiliser simplement du 0 et du 1. D'où apparaît une première licence, c'est-à-dire pour contrecarrer ces trois licences, c'est-à-dire les droits d'utilisation. Par exemple, sous Windows, vous avez le droit, quand vous achetez un Windows Vista ou XP, vous avez le droit d'utiliser pour une seule machine. Si vous installez votre deuxième XP sur une autre machine, vous êtes en illégalité complètement totale. Donc ça, ce sont des droits d'utilisation. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il dit, nous aussi, on va faire du droit, et en fait, on va demander d'avoir quatre libertés fondamentales. Les quatre libertés fondamentales, c'est j'utilise un logiciel et je fais ce que j'en veux. C'est-à-dire, je peux faire la guerre avec et je peux faire la paix avec. Deuxième loi, en fait, on commence par l'article 0, ça c'est un truc informatique, mais enfin, l'article 0, c'est j'utilise un logiciel, j'en fais ce que j'en veux. Le deuxième article, c'est je peux le donner à mon voisin, je peux le donner à quelqu'un que je ne connais pas, il est libre de diffusion. Troisième chose, c'est que je dispose du code source, c'est-à-dire que je peux faire partager comment le logiciel est fait. Et à partir du moment où on dispose du code source, on peut le modifier. Donc rajouter des fonctionnalités à un logiciel. C'est-à-dire une entreprise, par exemple, qui dispose d'un logiciel libre, peut l'arranger suivant ses besoins, et l'adapter au fonctionnement de production de son entreprise. Et après, on peut bien sûr partager ces modifications et les distribuer.
Mais pas que les entreprises, rassurons-nous.
Il n'y a pas que les entreprises, mais il faut bien qu'il y ait un modèle économique quand même. Bon, libre ne veut pas dire forcément gratuit. C'est-à-dire que quelque chose qui peut être fait bénévolement peut être aussi vendu. Donc là, à ce niveau-là, le libre n'est pas forcément gratuit. C'est chacun en fait ce qu'il a envie d'en faire, s'il a envie de le distribuer gratuitement. Mais par contre, il a la possibilité de reprendre la même licence et de diffuser ses modifications sous le même terme des mêmes licences. Voilà, je crois que...
Le mot licence, il t'a trouvé quelque chose.
Alors, Ben...
Ah oui, c'est un peu cool. Oui, bon, je vais... C'est pas complété, mais c'est juste enchaîné sur les notions un peu plus juridiques. Donc, il a parlé du code de propriété intellectuelle. Fin 18e, on a considéré que toutes les créations devaient être protégées, c'est-à-dire qu'un créateur avait des droits sur son travail. C'est un moyen comme un autre de subvenir à ses besoins. Donc, je fais une création originale. J'ai des droits sur un objet immatériel qu'est la création et je peux en faire ce que je veux. Je l'exploite, ça m'appartient. Voilà, j'ai créé quelque chose, ça m'appartient. Seul moi, quoi, je suis le seul à pouvoir le modifier, l'utiliser, le distribuer et tout ce qui va avec. Je fais une chanson, je suis le seul à pouvoir la chanter. C'est bon, il y a quelques exceptions, mais c'est le principe. Les licences libres, c'est des contrats par lesquels je décide dès que je diffuse mon œuvre de dire. Vous voyez, je diffuse mon œuvre, mais tous les droits que moi personnellement j'ai et pour lesquels il vous faut mon autorisation, je vous la donne. Donc dès à présent, vous pouvez à la fois utiliser mon logiciel, vous pouvez aussi le copier, vous pouvez le distribuer, vous pouvez le modifier. Tous les droits en fait qui sont vraiment particuliers à l'auteur appartiennent à tous les licenciés, tous les utilisateurs. Et donc c'est le principe, il y a une sorte de d'équité, d'égalité qui est je pense qu'un des fondements du logiciel libre, c'est-à-dire l'auteur a autant de droits que les utilisateurs. Et à la fin, les utilisateurs eux-mêmes vont contribuer, donc seront auteurs d'une partie du logiciel. Donc on a un enchevêtrement où tout le monde est auteur, tout le monde est utilisateur. Personne n'a vraiment de propriété sur un bien qui est plural, qui est où pour vraiment être utile, il faut utiliser les contributions de tous. Donc voilà, c'est donc la licence, c'est un contrat et c'est un contrat qui permet de gérer ses droits de propriété intellectuelle.
Alors on pourrait parler des droits de propriété intellectuelle.
Tu parlais du 18e siècle, on peut partir effectivement de ce domaine. Bon. Avant, c'était un état donc.
C'est Gilles, hein.
Oui, c'est Gilles. Ah. Avant, c'était un état donc avec des édits de rois, etc. Et puis après, il y a eu la Révolution française. Et donc, on s'est posé la question, est-ce qu'il y a le droit d'auteur ou il n'y a pas de droit d'auteur? Alors, à partir de ce moment-là, il y a eu Beaumarchais, etc., qui était pour les droits d'auteur et surtout appuyé par l'imprimerie. En fait, l'imprimerie a commencé à dire ben, on veut récupérer les droits d'auteur. Pas simplement pour l'auteur, mais aussi pour les droits de reproduction. Et là dans un domaine plus actuel, c'est les droits de reproduction phonographique, la SPEDINAM, la SACEM qui gère les droits d'auteur. On pourrait parler de la SACEM aussi.
Ce sont des droits mécaniques, hein. Ils sont appelés mécaniques, c'est-à-dire les coûts mécaniques de reproduction. On couvrir les coûts mécaniques de reproduction.
Donc à partir de ce moment-là, il y a eu plusieurs personnes qui se sont dit « Ben non, moi je suis auteur, j'ai juste besoin de changer la préface pour une nouvelle édition et je revends la même chose en changeant la préface et en rajoutant des choses. » Et ça, je gagne de l'argent uniquement en travaillant sur une œuvre, ce qui était l'encyclopédie Diderot par exemple. Après, donc les droits de mécanique ont été instaurés à partir de la Révolution. Puis après, on verra la SACEM à partir du 19e siècle. Voilà, je crois que...
C'est la Révolution, tu dis, qui a entériné les...
Qui a mis les droits d'auteur et les droits mécaniques.
Ouais, c'est les droits d'auteur dans la Constitution.
Je vais continuer un peu. Donc après la Révolution, bon, c'est 91 particulièrement, les différents édits. Ce qui s'est passé, c'est que les logiciels n'existaient pas encore, on s'en doute. En fait, n'était création tout ce qui était empreint de la personnalité de l'auteur. Si je chante, je sais pas, je prenais l'exemple du chant, mais si j'écris une phrase quelconque, j'ai pas de droit sur cette phrase. Je n'ai droit sur ma création que si vraiment elle est originale. C'est-à-dire, ma personnalité ressort dans cette création-ci. C'est vraiment le principe du droit d'auteur, c'est de dire il y a un lien entre l'œuvre et l'auteur qui fait que on peut pas détacher l'œuvre et dire ben voilà maintenant n'importe qui l'exploite. Vraiment il y a toujours ce lien défectible. Et c'est-à-dire que même il y a pour rentrer plus dans le juridique sur une création, il y a deux types de droits, des droits patrimoniaux, ce sont les droits qui permettent l'exploitation de l'œuvre, donc la distribution, la copie, tout ce qu'on parle, tous les droits qui sont conférés par la licence, tous les droits patrimoniaux font partie de la licence. Et les droits moraux, c'est sur ma création, sur mon œuvre, j'ai un droit de paternité. C'est-à-dire, personne ne peut utiliser, même si je la mets sous licence libre, personne ne peut utiliser mon œuvre si elle n'indique pas qu'elle vient de moi, que c'est moi l'auteur et personne d'autre. Si elle modifie, pareil, elle pourra dire qu'elle a elle-même à modifier, mais que l'œuvre originaire qui est ici m'appartient à moi, quoi. Et bon, après, il y a aussi le droit au respect de l'œuvre. Ça, c'est un petit peu particulier parce que les licences libres prennent certaines libertés de ce point de vue-là, on peut le dire. Mais c'est ce qui permet de dire j'ai créé une œuvre, je peux la mettre sous licence libre. On n'a pas le droit de porter atteinte au respect de cette œuvre aussi. C'est dur de donner des exemples comme ça, mais c'est un droit qui est souvent présent dans le cas de contrat d'adaptation ou autre, où une personne se sert d'un quelconque droit sur une œuvre pour dire ben, j'en fais quelque chose de complètement différent. L'auteur, il se voit cité comme auteur d'une œuvre et en fait, il n'y a plus aucun rapport avec ce qu'il voulait paraître. Et ça peut être des propos xénophobes alors que lui, c'était pas du tout son ambition. Donc voilà, ça c'est les œuvres en 1791 et compagnie, fin du 18e.
Le logiciel est apparu bien après. Et on a amoindri un peu la protection en disant non pas qu'il faut plus que ce soit empreint de la personnalité de l'auteur, mais il faut juste qu'il y ait un apport personnel. C'est-à-dire, si je fais une ligne de code qui est quelconque, pareil, j'aurais pas droit sur cette chose-ci. Par contre, si vraiment il y a un travail derrière, si les lignes de code représentent quelque chose pour le développeur, là il y aura des droits sur cette création. Et je pense que c'est important d'avoir cette idée de création originale pour dire tout n'est pas protégeable. Le reste c'est information, n'importe qui peut l'exploiter. Et par exemple sur Internet on voit les wikis où n'importe qui peut contribuer ou autre. C'est aussi intéressant de savoir que toutes les personnes qui ont contribué à une page n'ont pas de droit d'auteur. Je dis pas ça pour démunir des droits les personnes, mais c'est simplement que si on veut changer les licences, si on veut, parfois il faut prendre des décisions avoir l'accord de tout le monde, c'est difficile. Et c'est bien de savoir qui est-ce qui a des droits, qui est-ce qui n'en a pas, et qui est-ce qu'il faut consulter pour diffuser de telle ou telle façon ou changer les licences. Et bon, là c'est d'autres débats un peu plus techniques.
On a glissé tout à l'heure aussi vers les licences artistiques. Hein.
Tout à fait, on s'égare un peu du sujet. Voilà. Donc on va parler, en fait on est là pour parler de Linux, qui est le système d'exploitation libre, qui a le vent en poupe, mais sachez qu'il y a d'autres systèmes d'exploitation, il y a OpenBSD, FreeBSD. Donc voilà, enfin...
Parle-nous de ton site un petit peu, rentrant dans ce que les gens font, peut-être un peu en aparté, et parle-nous de MDesigner.
Oui, MDesigner, en fait, c'est une association qui dispose d'un site et qui permet d'être à l'actualité des logiciels en voie de développement, soit en bêta ou soit en version stable. Il faut savoir que certains logiciels de création sonore, donc montage sonore, sont actuellement en état professionnel puisque ça commence à intégrer des consoles de mixage, des synthétiseurs. Enfin, là, j'appellerais plus ça des synthétiseurs comme on a l'habitude de les voir dans des marques de renom du style Yamaha, Korg, puisque c'est carrément, on peut lire un DVD maintenant sur un synthétiseur.
J'ajoute juste... il marche pas ce micro-là. Okay. Juste un petit détail, quand tu dis que ça embarque des consoles de mixage, j'ajoute simplement que c'est les consoles de mixage elles-mêmes qui embarquent le logiciel et non pas l'inverse. C'est pas un simple support des tables de mixage, c'est vraiment les tables qui ont un soft embarqué libre dedans. Donc ça prouve quand même que ça peut être utilisé au niveau industriel, au niveau production, et que c'est très fiable. Ouais, c'est simplement ce que je voulais ajouter.
Oui, enfin, c'est quand même très récent parce que ça date de février, mais c'est que ça fonctionne, c'est que les industriels ont décidé d'utiliser les solutions d'outils sonores et de création sonore et d'enregistrement multipiste sur des consoles numériques. Donc c'est déjà un bon point. Donc en fait, on arrive déjà à des solutions industrielles, donc stables, utilisables. Bien sûr, le développement audiovisuel sous Linux, au niveau de qualité des outils, ça date de 98, donc on est encore dans des versions qui se cherchent. Il y a pas mal de choses expérimentales, donc des fois ce n'est pas facile à installer, des fois il faut avoir des besoins d'avoir des gens de ressources pour pouvoir installer tel logiciel. Donc en fait, le site MDesigner essaye de donner des voies, des directions, de mettre à jour les actualités sur les logiciels et de tester. Après, rien ne vous empêche de dire ça ne marche pas, d'envoyer un commentaire si ça ne marche pas, essayer de trouver une solution ensemble, et voilà. Donc en fait, c'est beaucoup de testing et de mise à jour d'actualité. Et bien sûr, aussi, on référence tout ce qui est artiste libre, sachant qu'il y a des sites pour ça, mais je crois qu'on en parlera vers 14h, qui, eux, hébergent des artistes libres. Donc nous, c'est plutôt les outils, en fait, hein, qui fonctionnent dans l'environnement GNU Linux.
Je veux compléter un peu, là. Bon, on n'a pas super préparé l'intervention, mais bon, on essaye de donner des briques qui arrivent un peu peut-être dans le désordre, c'est peut-être pas facile pour vous poursuivre. Mais bon, il y a un thème, là, dont on n'a pas vraiment parlé, c'est l'idée de la coopération. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le mouvement des logiciels libres, c'est quand même assez subversif par rapport à ce qui existait dans l'industrie du software, mais dans d'autres domaines. C'est que ça a été possible parce qu'on avait des outils, donc le réseau, etc., qui nous ont permis de travailler ensemble. Donc quand je dis travailler ensemble, c'est pas quelques mecs, c'est de l'ordre de milliers de personnes sur des dizaines d'années. Donc c'est quelque chose d'assez unique. Je pense pas qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité une telle coopération de telle envergure. Et des fois, quand il y a des analystes qui essayent de faire des évaluations du coût de ce travail, ça se chiffre en milliards de dollars, quoi. Donc ils estiment des fois que des projets tels que Debian dont je parlais, ça représente des sommes qu'aucune entreprise est capable de financer si eux ils ont envie d'avoir un tel produit, quoi. Donc il y a cette coopération. Et pourquoi cette coopération? Parce que un, il y avait les outils, c'est ce dont je parlais, et il y avait aussi, on va dire, un dénominateur commun qui poussait les gens à être coopératifs. Alors pourquoi ils ont voulu travailler? C'est qu'ils ont essayé de définir des règles pour qu'il y ait un certain équilibre entre pour pas que le travail de chacun soit se profite à un autre, etc. Donc ils ont fixé ces licences là dont il a parlé un peu tout à l'heure, qui sont en fait le pilier du mouvement du logiciel libre. Les textes sont, ils tiennent en une page et ils disent clairement que le programme ne peut pas être récupéré pour en faire quelque chose de, instaurer une dépendance, on peut faire du travail, du business dessus, c'est pas un problème, mais il faut qu'on puisse accéder au programme pour pouvoir le modifier, le faire évoluer, le corriger, le partager, etc. Et c'est cette magie là qui a fait que des gens ont cru dans le truc, ils se sont pas sentis lésés à faire ça, et ils ont eu tout intérêt à partager parce que le travail c'est de la coopération, donc ça s'additionne. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans d'autres domaines. Donc la connaissance, l'éducation, etc., c'est quelque chose que vous avez connu. Quand vous avez un cours de maths au collège, eh bien les théorèmes, ils appartiennent à personne. Ils ont un statut de libéré. Et vous pouvez expliquer une règle de 3 à quelqu'un, personne ne va vous tomber dessus en disant « Hep, 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 la règle de 3, c'est moi, faut passer à la caisse, quoi. » Donc on n'en est pas là, mais bon, il y a des thèmes là-dessus qui s'y approchent. Par exemple, il y a des brevets qui sont définis. C'est évaluer une expression booléenne. Alors, une expression booléenne, pour ceux qui savent pas, c'est une suite de conditions. Et le fait d'évaluer si les conditions sont remplies ou pas, il y a quelqu'un qui a déposé un brevet là-dessus. Donc, potentiellement, il peut emmerder tous les gens qui font une égalité, quoi, qui utilisent le signe égal. Donc si on vous supprime le signe égal, vous êtes un peu mal, et pour pouvoir toutes les sciences, ça s'effondre. Donc ça, c'est des dérives qu'on essaie de dénoncer, de combattre, mais bon, c'est présent et c'est une forme de lutte qui n'existait pas au début où a été créé ce mouvement là donc il y a la coopération. Et dernier point, c'est un truc qui vous touchera peut-être plus ici, c'est essayer de gagner de l'autonomie, de l'indépendance, se débrouiller nous-mêmes, ne pas être créatif aussi, puisque c'est quand même les gens ont fait ça, c'était pas du travail sous la contrainte, c'était très créatif, chacun faisait sa partie qui l'intéressait, il y a une certaine satisfaction personnelle, etc. Et donc, ouais, l'idée de créer quelque chose, il y aura peut-être plus de satisfaction à fabriquer un gâteau pour ses amis que d'aller acheter le gâteau nominal qui a été décidé par une corporation transnationale qui a défini que le goût nominal du gâteau au chocolat, ça serait ça, quoi. Non, il y a des millions, il y a autant de gens que de goûts, que de façons déclinées. Donc, il y a cette idée de fraternité, puis cette idée de créer de l'innovation, de spontanéité, etc. Donc ça, c'est important, et je pense que ça touche pas que les logiciels, la musique, l'éducation, la connaissance, tout ça, c'est des domaines d'application d'une valeur qui existe universellement, quoi. Et ça, il faut la conserver, cette valeur, parce que si on perd ça, on se retrouve, quoi, ben on est des pions et on est obligé d'acheter ce qu'on nous demande, et puis on nous supprime les choix, on se retrouve comme des robots, quoi, en fait. On perd notre possibilité, ouais. Oui, vas-y.
Est-ce que les logiciels libres ont déjà un rapport à la vie des applications?
Oui, mais c'est ce qu'on appelle des licences. Ah, des chartes? Non.
Le noir, c'est
bon, si tu veux. Tout ça pour dire que les informaticiens, donc les gens qui sont intéressés à l'informatique durant ces 10 dernières années ou plus, même, on fait un travail assez beau, et donc beaucoup de gens tentent de transposer cette philosophie à d'autres domaines. Et voilà. Donc, si vous voulez en parler aussi, Alors, la question.
N'hésitez pas à intervenir, hein, je trouve que c'est intéressant justement de...
Je vais te demander si au niveau des logiciels libres, il y avait une charte de conduite par rapport aux utilisateurs, par rapport à l'anonymat, parce que, enfin, je parle ça par rapport au procès qu'il y a avec Yahoo sur le fait qu'ils ont filé au gouvernement chinois les coordonnées informatiques des dissidents du gouvernement chinois, quoi.
Ouais, ça c'est un deuxième problème.
Les dérives par rapport à Google aussi, quand ils ont accédé au marché chinois, mais en ayant le comment, en disant ok, on a le marché chinois, mais le gouvernement chinois leur demandait que les Chinois ne puissent pas accéder au site qui critiquait le gouvernement chinois. Et parce que je trouvais que vous parliez pas du tout des enjeux économiques et politiques d'utiliser des logiciels libres, en fait. Pour les utilisateurs, vous parlez en tant que, j'ai l'impression, de créateur, etc. Mais nous, en tant qu'utilisateurs, c'est quoi l'intérêt, quoi?
En fait, c'est une différence entre un service qu'on offre qui utilise derrière des logiciels libres et le logiciel en lui-même. À la base, le logiciel n'a pas forcément, ne dicte pas de comportement comme ça sur... En fait, les gens en font ce qu'ils veulent. On est libre d'utiliser le logiciel pour en faire ce qu'on veut. Lui, en lui-même, le logiciel ne va pas expliquer, puisque de toute manière, le code source est ouvert, tout le monde sait ce qu'il y a dedans, et à partir de là, il n'y a pas de problème. Maintenant, il est possible qu'il y ait des services qui utilisent ces logiciels, qui après puissent dénoncer des gens, effectivement, comme tu disais. Mais alors là, c'est plus vraiment du domaine du logiciel libre, ça devient vraiment un service sur Internet, enfin, on s'écarte en fait du domaine d'origine.
Non, mais il y aurait une possibilité de dénonciation collective de ça, et pour l'instant, ça n'est pas possible.
Et justement, ce que tu dis, moi j'ai envie d'accentuer là-dessus, parce que bon, on parle des logiciels, donc ça c'est des programmes, mais l'Internet c'est vachement important, parce qu'on peut considérer ça comme un programme aussi à échelle planétaire. Et là, il faut le surveiller et faire en sorte qu'il reste libre. Donc, nous, on peut pas parler de ça parce que nous, on parle des programmes. Donc, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est une matérialisation de cette envie de partager, etc. Mais l'usage que font les gens du réseau, c'est aussi important. Et ça, c'est deux problèmes différents. Donc, les textes qui ont été faits par les licences des programmes. On peut pas dicter des usages dans la mesure où on peut pas contrôler ce que les gens font, etc. C'est pas possible. On n'a pas l'infrastructure. Et par contre, il y a d'autres organismes. Donc typiquement dans la Géode, là, j'ai vu qu'ils avaient pas mal d'affiches justement sur tout ce qui est le respect de la vie privée, etc. Ça, c'est que ce soit des logiciels libres ou des logiciels propriétaires ou même pas des logiciels des gens ou je sais pas quoi, c'est un combat à part entière, quoi. Et ça n'a rien à voir au fait que le programme soit libre ou pas, quoi. Tu vois. Mais c'est un point très très important, et je pense que c'est, faut être vachement plus vigilant justement sur l'usage qui est fait d'internet, de vos deux. Typiquement, là, je sais pas, vous êtes combien, peut-être 250 personnes. Il y en a bien quelques-uns qui ont des comptes chez Hotmail, avec tous leurs mails qui seront supervisés par une firme pendant toute leur vie, quoi. Et typiquement, quand vous chattez avec MSN, faut savoir que toutes les conversations que vous avez, elles passent par un serveur où les conversations sont stockées. Et quand vous avez installé ce programme, il y a eu des licences qui disaient tout ce que vous dites, tout ce qui est véhiculé dans ce protocole MSN, Microsoft se garde le droit de stocker l'information, de la revendre, de la modifier, de la publier. Donc, je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire de plus, hein, honnêtement. Ben moi, je sais pas, ça me semble complètement abusif, quoi. Et sachant que les gens, ils savent que les gens installent les trucs sans lire les licences, et du coup, ben voilà, ils sont en train de pomper tous les comportements sociaux, de marketing, de machin, et ils vont les exploiter. Donc ça, c'est quelque chose, nous, les logiciels libres, on a conscience de ça, on sait comment ça fonctionne, et on essaye d'éduquer les gens pour qu'ils sachent un peu qu'est-ce qu'ils font quand ils sont en train de faire, typiquement, uploader des MP3 sur MySpace ou des choses comme ça, et on essaye d'informer les gens pour leur dire, écoutez, attention, il y a des alternatives, nous, on s'engage à respecter votre vie privée, nous, on s'engage à respecter vos droits, ça, c'est des services différemment. Et d'ailleurs, je pense qu'elle pourra pas mal compléter ce que je dis, ce qui est notre prénom, là.
Laurence,
ouais. Oui, vas-y, je te passe.
Ouais, je voulais dire au propos des hébergeurs, puisque la question est portée par rapport aussi sur Internet. Donc, entre autres, je suis partie d'un hébergeur qui s'appelle Marsnet, qui est à Marseille, et qui est aussi une petite cousine de Clubnet. Clubnet, c'est Nolog. Je ne sais pas si vous connaissez peut-être certains d'entre vous, ont un email à Nolog, qui est donc un hébergeur géré par l'association Clubnet. Et donc il y a plusieurs hébergeurs comme ça
pour les sites et pour les emails, des hébergeurs libres qui existent en France et dans d'autres pays. Donc en France, je sais pas, il y en a par exemple une trentaine. Vous pouvez d'abord avoir à la liste sur un site qui s'appelle hébergeurslibre.org. Il y a donc la liste des hébergeurs. Et chacun a sa propre charte, mais on travaille à faire en sorte qu'il y ait une charte commune. Alors en général, l'éthique qui est véhiculée dans les hébergeurs libres, c'est de ne pas divulguer les coordonnées personnelles des personnes qui ont des emails ou qui ont des sites sur hébergés chez les hébergeurs libres. Donc de faire tout pour que bon, bien sûr, il y a des lois qui commencent à imposer les conservations des données. Bon, pour l'instant, les décrets ne sont pas tous passés. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore toutes les données en main pour savoir comment. Enfin, pardon.
Comment réagir.
Oui, comment réagir, voilà. Donc, il y a justement une concertation des hébergeurs pour savoir comment réagir par rapport à ça. J'avoue que, bon, c'est quand même très inquiétant. Très, très inquiétant. L'idée de faire le maximum pour rester... Pour ne pas divulguer les données, essayer de... On est en train de réfléchir aussi les moyens pour trouver des parades par rapport à ça, quoi.
Alors, par contre, autant l'hébergeur a un rôle important... Mais de toute façon, ça va quand même dépendre totalement des services qu'on utilise derrière. On a besoin d'avoir un hébergeur éthique qui ne divulguera pas les données.
Christ. Il faut choisir. En fait, je pense que c'est à chacun de faire le choix, de se poser la question, de faire la démarche et de choisir les services auxquels il peut faire confiance ou non. Je pense que dans un futur proche, ou c'est peut-être déjà le cas aujourd'hui, on doit pouvoir trouver des annuaires de services de confiance entre guillemets, dont on sait, dont on connaît l'éthique et on sait ce qui va se passer, qu'il n'y aura pas de données retenues ou alors le strict minimum légal juste pour pas être en infraction, enfin ce genre de choses quoi. Mais bon voilà, après ça déborde de l'informatique libre. On n'a plus vraiment le contrôle là-dessus en tant que libriste quoi.
Une question dans le public.
Oui, donc c'est pas une question, c'est pour réagir, c'est pour dire que le fait que ce soit en vert, ça sera dénoncé au cas où il y aura une à partir du moment où
il prend moins de risques, on va dire.
Oui, il y a cette notion sécure par l'obscurité, ou un truc comme ça. Donc typiquement, les logiciels propriétaires, c'est des boîtes noires. La seule chose que vous voyez, c'est l'interface. Et encore, tel que le programmeur l'a pensé, pas forcément comme l'usager a envie de l'utiliser. Et l'Internet, c'est un peu pareil. C'est que, bon, tu as un formulaire, tu mets ton nom, paf, et après, tu sais pas du tout ce qui se passe, quoi. Et si tu veux chercher à savoir, tu peux que leur faire confiance sur parole. Et encore, comme je dis, quand on lit les textes, on voit qu'ils se prennent tous les droits. Donc...
sinon, des sites comme Framasoft sont là pour commencer, quoi.
Eh bien oui, mais c'est comment tu veux savoir comment ça fonctionne en interne? Comment tu veux savoir que, par exemple, quand ils parlaient du cas de Yahoo, ils allaient balancer ça à des services de renseignement? On n'a pas la visibilité. Par contre, si un service offre une transparence et qui dit « nous, on a une structure, on montre la transparence, on est structuré d'une façon associative où on fait venir des experts qui peuvent analyser notre système, comme quoi on essaie d'être en accord avec nos usagers », du coup, tu peux avoir plus confiance, quoi.
Il y a des structures, en fait, qui garantissent
le... Eh bien, typiquement, c'est le réseau dont on parlait, là, GlobeNet, qui essaye, justement, de porter ces valeurs-là. Et les gens, l'usager moyen qui découvre l'informatique, il n'a pas du tout notion de tout ça. Et bon, quand on commence à expliquer tout ça, oulala, ça prend la tête, quoi. Mais c'est là-dessus que leur business model est fondé. C'est comme dans un supermarché, quand t'achètes un paquet de gâteaux, s'il est bien emballé et qu'il y a le marsupilami dessus, tout le monde est content. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le gâteau, quoi? Si c'est peut-être que c'est parce que ton organisme réclame, quoi.
Alors, on avait une discussion là avant la pandémie, on parlait justement de CD, on disait qu'Internet, en sachant que sur Internet, la plupart des logiciels qui sont une version des logiciels libres.
Ben,
c'est moi. Et donc voilà, à la base, Internet, c'est juste un réseau et l'intelligence est une réalité. c'est des logiciels qui sont un inconvénient de systèmes comme Google ou d'autres. Même s'ils marchent sous logiciel libre, il y a un changement de mentalité parce que l'intelligence se trouve sur le réseau et les utilisateurs là sont contraints de respecter les charges Google et en place. Donc le logiciel libre, c'est plus. On rend accessible des logiciels qui sont plus en plus performants dont chacun contribue, mais on va pouvoir installer vraiment sur son propre serveur ou serveur d'un copain ou ainsi de suite. Et l'intelligence sera distribuée sur le réseau. Chacun après peut aller chez le voisin s'il veut, dans une entreprise ou peu importe, mais il y a la possibilité lui-même d'avoir ses outils. Et c'est pour ça qu'un logiciel libre, il y a beaucoup de logiciels différents, notamment avec des logiciels qui sont réunis sur des sites comme Framasoft, qui est un grand admirateur de logiciels libres. On va nous parler, Johan.
Donc oui, moi je voulais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit la dame tout à l'heure qui a pris la parole et non la personne du public ainsi que ce que Marc a dit en début donc de conférence à propos de Microsoft et compagnie qui font avancer l'informatique ou pas. Je dirais dans un sens oui. Pourquoi? Parce que eux communiquent. Et les gens voient ce qu'on leur dit. Tout simplement, le défaut du libre actuel, un des défauts, c'est le manque de communication et de clarté. Ce qui se passe, c'est que, comme on peut voir depuis le début du débat ici, c'est relativement technique. On rentre tout de suite dans les plans techniques, dans les plans juridiques, et la plupart de ce qu'on peut trouver sur Internet à propos du libre part très vite là-dessus. Donc il y a très peu de communication directe, simple, envers le grand public, envers la personne qui connaît pas, qui est néophyte et qui cherche à comprendre. C'est là justement que se situe Framasoft. Notre but, ça serait donc, est justement essayer de vulgariser un petit peu le livre, essayer d'accrocher le public le plus large possible pour faire prendre conscience des choses petit à petit, donc pas directement rentrer dans les plans techniques, dans la liberté, tout ça. C'est clair, c'est fondamental, c'est ce qui fait le livre, mais ce n'est pas ce qui attire les gens. Première chose, à part peut-être vous ici, justement, parce que vous êtes intéressé. Mais ce n'est pas le cas de 95% des gens qui, justement, découvrent l'informatique, parce qu'ils trouvent à droite à gauche, parce qu'ils ont vu ce qu'ils voient dans les magasins, de ce qu'ils entendent parler. Donc l'informatique, c'est effectivement la liberté, mais c'est avant tout la communication pour avoir cette liberté. Et donc, comme disait Marc au début, est-ce Microsoft, Apple, Adobe qui font avancer? Je dirais oui, c'est eux qui ont fait en sorte que le grand public se mette à l'informatique. Maintenant, c'est à nous de faire en sorte que cette informatique grand public évolue et ne reste pas cantonnée à ce qu'elle est actuellement, c'est-à-dire fermée dans des verrous justement qui ne correspondent pas du tout aux différentes libertés que tous mes collègues ici présents vous ont exposées depuis le début. T'as vu une question hein?
Ouais, je vais faire un avocat du diable, en fait.
Très bien.
Là, j'en pense pas avant, mais ceci dit.
Enfin, tu dis que vous, tous les logiciels libres et tout ça ont pas de visibilité par rapport aux médias et tout ça.
C'est le problème de la publicité.
Voilà. Et ta publicité, tu l'as sur des sites, enfin, même quand tu vas sur Internet, tout ça, tu l'as quand tu payes la pub, enfin, en cautionnant la pub, en fait, sans la payer, mais tu la cautionnes, quoi. Et du coup, ces sites-là t'offrent une visibilité, t'offrent un vachement de visibilité. Et du coup, même avec un site de merde, si t'as gros de pub, t'es visible. T'as beau être le meilleur accessible du monde, être le plus web du monde, avoir les meilleures envies, si personne te voit, t'es viré.
On est tout à fait d'accord. Qu'est-ce qui fait que...
Et du coup, et je rebondis, en plus je vais faire vraiment enculer jusqu'au bout, c'est qu'on arrive sur MySpace. Bing. C'est QFD. On y arrive.
Du diable, là, justement, tu confirmes ce que je dis. C'est que c'est la pub, la promotion qui fait que quelque chose est connu. C'est pas sa qualité.
Voilà. Et
c'est ce qui manque au libre, justement, pour se faire connaître, à mon avis.
Et si je peux me permettre, oui, juste 2-3 oui. Minutes, quoi. En tant que. Enfin, pas utilisateur, mais disons que je bosse avec MySpace, quoi. Moi, ça me fait des dates en tant que musicien, si tu veux. Je trouve des dates de concert dedans, je trouve des contacts. Ça me coûte rien en téléphone. Tu vois, ça fait un lien de... Ça me fait une communication. Je trouve des contacts avec dans les concerts, parce que les mecs, ils peuvent écouter aussi la musique que tu fais. Et derrière, donc du coup, ça te permet de jouer aussi, de te produire, de faire de la musique. Après, les mecs, tu refuses MySpace et tu te retrouves, tu joues trois fois par an, une fois à la fête de la Grande Goublet, l'année d'après, tu joues ici, à la fête du livre, et puis l'année d'après, à Marseille ou je sais pas quoi. Alors, est-ce que.
Je dirais,
il faudrait pas trouver une plateforme éventuellement. Je cautionne pas MySpace, attention.
Ouais, ouais,
je me fais l'avocat du diable.
Ouais, ouais, vas-y.
Je cautionne pas. Mais est-ce qu'il y aurait pas moyen de trouver un truc qui puisse cautionner, enfin, qui puisse faire les deux, en fait? Qui puisse avoir l'intelligence de MySpace, c'est-à-dire mettre tout le monde en connectivité assez vite, et où t'es pas de pub sur ton site, quoi.
Oui, bah c'est exactement ce que je dis. Peut-être une plateforme comme ça existe, mais elle n'est pas mise en avant.
Faut que soit connue parce que.
Mais oui, justement. Mais comment elle est connue? Par la promotion. Et la promotion, ça se fait pour l'instant entre les sites qui ont un rapport comme ça avec le livre plus ou moins. Et nous, justement, ce qu'on essaie à Framasoft, c'est essayer de promouvoir certaines choses comme ça. Mais malheureusement, pour l'instant, ça avance petit à petit parce que MySpace aura beaucoup plus de connaissances, d'argent derrière pour se promouvoir à droite à gauche et s'imposer, et c'est un cercle vicieux en fait.
Alors écoute, tu vas être content parce que les consultations sont gratos et j'ai la réponse à ton problème. Donc moi effectivement je... Non, mais elle est typique parce que je pense que la majorité... Tous les icos qui sont là, ils ont envie d'être vus, etc. Donc, quand tu as une page sur MySpace, pas de problème. Par contre, tu peux trouver peut-être une alternative. Donc, moi, les alternatives, là, j'avais cherché justement à en trouver. J'en ai énuméré 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6. Il y a 6 alternatives possibles. Alors, j'en ai vu des gars avec des t-shirts, justement, la Dogmazic, là. Je sais pas où ils sont. Ils sont où ? Ils sont pas loin. Ils sont allés dormir. Non, sérieux, il y a un mec là qui a un t-shirt orange, Dogmazic. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent ils font des plateformes pour uploader de la musique, ils mettent en relation les gens, il y a des forums, etc. Par contre, ils ont quand même des exigences, c'est-à-dire qu'ils veulent qu'ils aient le droit de publier ta musique. Donc en gros, ils veulent que tu sois pas enregistré à la SACEM. Tu vois? Ça, c'est une alternative. Et alors, attends, tu vas sur ta page sur MySpace, tu mets un gros banner pour dire, ouais, MySpace ça pue, moi je vais sur Dogmazic, t'as tous tes potes qui vont avec toi, et du coup, tu renforces le réseau. Et si on est là ce soir et qu'on n'est pas là au festival de la Star Academy ou je sais pas quoi, c'est qu'on a un réseau, et on arrive à communiquer, quoi, et on arrive à se bouger. Non, parce que les gens applaudaient la musique avant MySpace. Mais écoute, tu utilises leurs armes, mais tu peux pas dépendre que sur eux. Tu peux pas dépendre que sur eux. Paye-toi une campagne de pub sur TF1 si tu veux toucher du monde.
Le problème de plus puissant, c'est la guerre de l'argent contre...
Écoute, nous, on a le logiciel libre, c'est un mec qui est parti tout seul au départ. Il est parti avec son idée. Et en 20 ans, il a réussi à faire un truc qui est crédible. On l'a. On n'a pas besoin de les niquer puisqu'on est meilleur.
Je pense que là, ça débat.
Alors,
il y a une table ronde sur l'art libre qui va se faire après celle-ci.
Je sais pas à quelle heure, à 2h ou à 3h.
Voilà.
2h30.
Il y aura un petit débat.
Voilà. Avec notamment Dogmazic et autres, donc on pourra revenir dessus. Mais juste un commentaire là-dessus sur MySpace, même quoi. Il parlait de la SACEM en disant tu peux pas être sur Dogmazic en étant à la SACEM. C'est vrai, ils sont rigoureux et bien à eux. Mais sur MySpace non plus. Logiquement, t'aurais pas le droit. Beaucoup de personnes le font, mais t'as pas le droit de diffuser ta musique comme ça.
Une question de...
Juste pour terminer sur MySpace.
On t'entend pas tout.
Juste pour terminer sur MySpace, le droit d'auteur n'est pas respecté dans le sens où, par l'affichage publicitaire, il y a eu des procès vis-à-vis de MySpace. Qui est quand même une grosse majeure, a dit il y a des artistes qui sont sous contrat avec Vivendi Universal et qui sont hébergés chez MySpace. Donc en fait, ils sont indépendants dans un sens et il y a une clause de rupture de contrat en fait. La solution à l'amiable, c'est que simplement Vivendi Universal récupère 5% des parts publicitaires. C'est-à-dire qu'en hébergeant sur MySpace ta musique, tu payes Universal et toi tu n'es pas payé.
Par contre, pour moi, c'est pas une question de libre ou pas libre.
Si tu n'es pas à la SACEM, tu n'es pas payé.
Là, ça sème, c'est pareil. Après, c'est.
On en parlera après, ouais. En fait, le problème, c'est que là, on s'égare. Un service, MySpace, ce serait libre, ce serait la même chose. Là, c'est, on parle de succès d'un service comme, plus ou moins commercial. Ça l'empêche pas d'être libre. Il pourrait l'être. Alors MySpace, effectivement, c'est un cas un peu particulier, mais disons que enfin, MySpace ou autre, peu importe, là, on parle de libre, et le libre, en fait, c'est pas ça. MySpace pourrait être libre, ce serait la même chose, et ce serait MySpace, ça change rien.
T'as un logiciel libre qui s'appelle My Own Space. Mon propre espace, à moi, et pas aux autres. Et pas à Rupert Murdoch, qui est le mec qui détient tous les médias. Ok. Donc ce logiciel, c'est un logiciel libre. Tu peux l'installer sur un serveur, ou tu montes une asso, etc. Et t'as un programme qui offre les mêmes services, sans les pubs. Il existe, il est libre, chacun fait ce qu'il veut. Et tu peux même faire du MySpace avec des pubs, il est là, le programme. Et il sera toujours là. Ça, c'est des alternatives, elles existent. Après, c'est à toi, si tu vois, est-ce que t'as envie d'essayer de voir si ça te convient d'avoir de la publicité pour acheter des 4x4 autour de ta musique punk. Ça, c'est toi qui choisis. Mais t'as l'alternative, et nous, on est là pour te la montrer.
Ben Dactux. Alors, ouais, ce que je voulais dire, en fait, c'est que ici, on parlait beaucoup d'éthique et tout ce qu'il y a autour, mais à la base, les logiciels libres, ce sont uniquement des outils. Donc, en eux-mêmes, on a des vues, nous, pour développer nos logiciels, on a nos trucs, mais on ne dit rien sur l'utilisation qu'on en fait derrière. Comme on disait tout à l'heure, on peut aussi bien faire la guerre que la paix avec des logiciels libres. Tout ce dont on parle ici, en fait, c'est... tout ce qui est l'éthique de l'utilisation de ces logiciels. Mais il y a rien qui dit dans les logiciels libres, tu devras faire ça et pas ça.
Tu peux fournir le service que tu veux à base de logiciels libres, en fait.
C'est un autre combat. Il est important aussi, comme disait Philippe tout à l'heure, c'est un combat important de libérer, enfin, de... Comment dire, de préserver, oui, c'est les libertés à l'utilisation. Mais c'est vrai qu'à la base, les logiciels libres ne vont en rien obliger les gens à utiliser d'une telle manière. Parce que, comme on disait, Google, qui a peut-être des pratiques plus ou moins pas terribles envers la vie privée des gens, utilise pas mal de logiciels libres. Mais c'est pas pour ça que.
En fait, on pourrait faire le parallèle entre logiciels libres, logiciels propriétaires, et services éthiques et services pas éthiques, en fait. Dans le sens où, c'est pareil, il y a toujours une question de publicité. Par exemple, pourquoi est-ce que Linux est moins répandu que des OS propriétaires comme Windows ou macOS? C'est tout simplement que les voies de communication sont bouchées pour les logiciels libres parce que ce sont pas les mêmes. Ça va être du bouche à oreille entre potes, ça va être les gens qui vont vraiment s'intéresser à la philosophie du libre qui vont tomber là-dessus. Maintenant, le monsieur tout le monde qui va acheter son ordi à la Fnac, pour donner un exemple concret et courant, lui, il aura le Windows qu'on lui fourgue avec son ordi, on lui demande pas son avis, illégalement d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle de la vente liée et c'est interdit par la loi, mais ça se fait quand même. Et pour les services, en fait, sur le net, disons que c'est un petit peu la même chose. Pourquoi est-ce que MySpace est plus connu que d'autres services libres et avec une certaine éthique? C'est parce que les gens qui tirent les ficelles derrière ont les moyens de faire de la com ou pas. Et de la com conventionnelle, genre à la télé, etc., ça coûte de l'argent, c'est des moyens commerciaux de faire les choses, quoi.
Une question dans le public de Lionel.
Oui.
Grand sociologue du libre.
Très, très grand. Je m'excuse, je suis arrivé un petit peu en retard, donc peut-être que je vais répéter des choses qui ont déjà été dites. Mais il faut savoir quand même que le logiciel libre, à l'heure actuelle, se développe et mange régulièrement des parts de marché sur son secteur propriétaire. Donc c'est pas uniquement une utopie militante, c'est quelque chose dans lequel des groupes somme toute assez peu portés à la philanthropie comme Boeing préfèrent investir dans le logiciel libre que dans le logiciel propriétaire. Ce qui crée donc du coup un rapport de force qui fait que les acteurs ont des moyens des moyens de travailler. Mais en fait tout est... Linux, ça vient de Linus Torvalds, son inventeur, et il a créé son système parce que son professeur lui interdisait de fouiller dans le logiciel qu'ils utilisaient, le système d'exploitation qu'ils utilisaient à l'école. Et il estimait que si on ne peut pas avoir accès au code source, donc on ne peut pas améliorer les choses. C'est donc pas tellement un discours militant d'une certaine façon, c'est un discours d'efficacité. Et c'est ça, c'est ce discours d'efficacité, au-delà même, en plus, ou même les rangs de ça, de la question du militantisme qui fait que le logiciel libre, ça marche. Et ça nous rend, si je peux me permettre une comparaison historique, c'est exactement comme le rapport à l'écriture. L'informatique, c'est presque comme le rapport à l'écriture. Pendant très longtemps, la majorité de la population n'avait pas accès à l'écriture. Et il fallait passer par des clercs, CLERC, pour vous dire qu'est-ce qui a marqué dans le livre, et le mot d'ordre vous expliquer voilà ce qui a marqué dans le livre. Et c'est vrai qu'on a tous un peu ce rapport d'analphabétisme, parfois avec l'ordinateur, ou quand ça marche pas, ou quand on voit apparaître les fameux errors VIN202.4.C, on appelle immédiatement son ami, si on en a un, ou la hotline qui vous prend 17€ la minute, pour avoir le renseignement. Linux propose d'une certaine façon, parce que c'est vrai, il faut bien le reconnaître, il y a un peu plus de compétences et de savoir-faire informatique à développer quand on utilise le logiciel libre que quand on utilise les logiciels propriétaires. Mais Linux propose, de façon assez simple et pédagogique, aux gens d'apprendre à lire. Pas forcément tous d'être capables de rédiger la critique de la raison pure ou la recherche du temps perdu, mais de savoir décrypter suffisamment pour gagner en autonomie.
De maîtriser l'outil.
Voilà. De maîtriser cette interface avec les autres qu'est l'informatique. Alors, sans doute, il a fallu un siècle à peu près pour alphabétiser la France. On peut espérer d'ailleurs qu'avec d'autres outils, il en faudra un tout petit peu moins pour alphabétiser le monde contemporain. Mais ce sont ces enjeux-là qui marchent et qui en plus se développent. Une dernière anecdote sur le coût des logiciels. On a beaucoup réfléchi ici aujourd'hui dans le cadre de ce festival sur qu'est-ce que la valeur marchande. Et on a des petits encarts qui nous disent de donner ce que vous voulez. La valeur marchande d'un logiciel, personne ne sait ce que c'est. Et je vous donne un exemple. À la mairie de Paris, ils ont décidé de passer, c'est dans le programme de Delanoë, de passer au logiciel libre. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la mairie de Paris, donc il y a des dizaines de milliers de postes, hein, de la bibliothèque aux administrations, paye donc des millions en licence chaque année à donc Microsoft. Il y a des cabinets de migration, des spécialistes du logiciel libre qui ont donc proposé de faire la migration pour une somme qui était en soi inférieure à une année de licence payée à Microsoft, mais là, pour toutes, une fois pour toutes. Eh bien, le lendemain où la proposition a été faite par le cabinet de logiciel libre de passer à la migration, Microsoft a dit « Ah oui, mais on peut négocier, en fait. Finalement, les licences, le prix des licences que vous nous versez, on va le diviser par 12. » Par 12. Ce qui veut bien dire que la valeur que l'on demande à un logiciel, c'est une abstraction. Voilà.
Juste un petit truc pour revenir un petit peu à l'aspect pratique.
Yannick.
Comment on fait pour... moi, je ne suis qu'un usager du libre. Et je ne suis pas développeur, je ne suis vraiment qu'un usager du libre. Et comment on fait pour utiliser Windows? On achète un ordi. Et c'est dedans. Et donc, on est soumis à ce qu'il y a dedans. Comment on fait pour installer une distribution libre? Eh ben, on peut télécharger un CD d'install, se le faire prêter ou donner, et surtout, on ne peut ne pas être seul. L'important, c'est ça. C'est, on a un ordinateur, on l'achète, il est soi-disant prêt à l'usage et il va être facile d'emploi. Ok, mais en même temps, on peut le comprendre, limité par plein de choses qu'on vient d'entendre tout à l'heure. Mais comment on fait donc pour ne pas rentrer dans ce carcan-là? Eh bien, on reste pas seul. On se rapproche de quelqu'un qui en sait un peu plus que soi, et on se met en réseau. Les uns et les autres, les développeurs sont en réseau, les usagers doivent l'être et être proches des développeurs, et ils vont se sentir épaulés, aiguillés, accompagnés dans leur accession au libre.
Je vais intervenir rapidement, c'est juste pour compléter. On parlait de la mairie de Paris tout à l'heure. Une migration qui est toute récente et assez importante. L'ensemble des postes des députés de l'Assemblée nationale est passé récemment, là, à la rentrée, sous licence libre, début du mois de juillet. Le 1er juillet, tous les députés, qui sont pas des informaticiens, sans doute, hein, c'est pas ce qu'on leur demande, sont sous un poste sous Linux, quoi, une distribution qui s'appelle Ubuntu.
Donc voilà. Excusez-moi, je vais couper un peu le débat. Simplement, je trouve que ça serait pas mal de passer un petit peu plus à la pratique, parce que, le livre, libre, c'est deux choses. C'est la philosophie.
Alors, une question du public à ce sujet.
Non.
Alors, il y a des gens qui se posent des questions aussi techniques, qui sont venus là parce qu'ils ont entendu parler de Linux, ils aimeraient bien savoir comment ça marche, quelles sont les limites techniques des OS alternatifs, etc. Et je pense que ce serait bien d'aborder un peu ce sujet-là, quoi.
Alors, une petite question.
C'est pas une question. En fait, moi, je trouve que cette forme... Enfin, déjà, tu me demandes si j'ai une question. Le public, il n'a pas forcément que des questions. Et en fait, j'aime pas du tout. Moi, je m'attendais pas du tout à quelque chose de conférencier. Et je m'attendais à un truc beaucoup plus partagé, avec une forme beaucoup plus partagée. Et là, en fait, je me retrouve à une table.
Et la grande messe.
Ouais, et voilà.
Écoute, cet après-midi, justement, on fait ça toute la journée. On est, y a une yourte là-bas. Et on va faire, justement, des espèces de trucs plus...
de mini atelier,
mais plus convivial où les gens on essaye d'avoir qu'est-ce qui les a amenés, etc. quoi. Mais je comprends. Moi, je te dis, en plus c'est un truc qu'on n'a pas vraiment préparé. On a tellement de choses à dire. On ne sait pas trop ce que vous attendez.
Bon, justement, on aborde là cette dernière demi-heure largement, les dernières 20 minutes. C'est voilà, on va répondre à vos questions.
Venez nous voir. On va passer la journée et puis on trouvera.
On s'excuse. On a réuni quelques spécialistes pointus.
Si vous voulez intervenir. Il n'est pas moi, il est libre.
Juste pour terminer, pour conclure, en fait, pour une migration facile, il y a Framasoft qui propose des logiciels libres, donc des applications, que ce soit simplement du traitement de texte ou pour des données de traitement de la photo, par exemple, qui fonctionnent sous Windows. Donc vous pouvez les installer sur Windows, vous allez sur le site de Framasoft et vous allez trouver tous les outils. Et une fois que vous aurez décidé de passer sous Linux et d'essayer le système d'exploitation Linux, vous n'allez pas être perdu parce que vous allez retrouver exactement les mêmes applications et le même système. Donc ça peut être une alphabétisation facile. Voilà. Et autrement, alors, pour terminer, c'est que il y a des groupes d'utilisateurs Linux à peu près dans toutes les régions en France. Il suffit de les contacter et eux vous aideront, suivant leur disponibilité, à mettre la main à la pâte, c'est-à-dire importer votre PC et pourquoi pas installer et choisir au démarrage. Soit vous utilisez Windows parce que vous avez un truc urgent à faire et puis choisir Linux parce que vous avez envie de découvrir, vous disposez un peu plus de temps. Voilà. Après, c'est vous qui ferez votre choix. Soit vous passez sous Linux ou soit vous passez vous restez sous Windows. C'est à votre choix, vous avez la possibilité.
Alors, il y en a qui sont déjà sous Linux qui ont des problèmes. faites circuler le micro et posez vos questions, vos réflexions, etc. S'il vous plaît. Alors que Guillaume est en train d'expliquer à la demoiselle qui ne voulait pas prendre la parole, pas prendre le micro du moins.
Mais pour répondre un peu là, à cet échauffement, là, nous on essaye de donner accès à l'information parce que c'est pas facile. Comme je vous dis, on n'a pas les moyens de se payer des campagnes d'information ou de publicité, enfin bref, comme vous voulez. Donc nous, on a des infos à partager, on a des infos à recevoir, effectivement, et typiquement, c'est pas une relation unidirectionnelle, c'est vraiment bidirectionnel parce que si les gens manifestent ce qu'ils désirent, eh bien nous, si on a envie de satisfaire leurs besoins, c'est bien qu'ils se communiquent. Donc on vraiment privilégie l'échange. Et comme disait Yannick tout à l'heure, il est juste utilisateur, mais il est déjà trop. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il a que les problèmes. Il a les galères. Qu'est-ce qu'il fait? Il a un problème, pof, il va dans le réseau. Il demande dans les communautés, j'arrive pas à installer ça, aidez-moi, etc. Du coup, les problèmes qu'il a eu, c'est pas les seuls à les avoir. Il y en aura d'autres qui les auront. Donc du coup, il y a les réponses, etc. Et là, il y a une intelligence collective qui naît. Parce que on est... c'est la fraternité, etc. Si c'est chacun sa merde, ça peut pas marcher.
À quoi peut-on répondre, par exemple, à des gens qui ont testé Linux, à des créateurs, des gens qui font de la vidéo, du son, et qui se disent, oui, mais moi j'ai essayé Linux, c'est merdique, hein, les softs sont pas au point, etc. Je préfère garder mon petit live, etc. pour faire mes lives. Que peut-on répondre?
Alors. Ouais, voilà. En fait, la question qui se pose, en fait, c'est quel support on va avoir de Linux, qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui va pas fonctionner, dans quelle mesure. Alors, la première chose à savoir, c'est que ça dépend beaucoup du matériel. Quand on achète du matériel, c'est bien de penser avant à ce qu'on va en faire. Et quand on veut faire marcher un Linux sur sa machine, l'idéal, c'est d'avoir acheté le matos en conséquence et de savoir que ça tournera bien. Ensuite, c'est ce qu'il y a. Il y a les limites de format. les gens qui utilisent des formats propriétaires peuvent s'étonner que bah, ça marche pas forcément à 100% sur des systèmes libres. C'est normal parce que les spécifications sont pas ouvertes. Donc ça, bah, y a pas 36 solutions. Soit on utilise un format ouvert, soit on fait un petit peu pression pour avoir du reverse engineering. Mais bon, c'est jamais. Alors reverse engineering, c'est de le principe, c'est de partir du format fermé et d'essayer de deviner un petit peu comment ça fonctionne.
Vous savez ce que c'est qu'un format en fait? C'est le point quelque chose que vous avez après un fichier. .doc, .web, .mp3.
Voilà, c'est la manière de d'écrire les données en fait pour un type de fichier donné.
Alors une question pour déconner
public.
Une question juste pour déconner.
Présente-toi si tu veux.
Peut-on ne pas aimer les ordinateurs et être libre?
Alors voilà.
Ah ouais,
excellent. Reste avec nous.
Encore mieux.
Ben vas-y, pose tes questions. Comment peut-on ne pas aimer?
Donc la question c'était est-ce qu'on peut être libre sans ordinateur? Et moi je dirais oui, d'autant plus. D'autant plus. Par contre, est-ce que le monde qui est autour de toi
est libéré
de il peut te laisser vivre sans technologie, quoi?
C'est de la technologie l'écriture.
Je suis pas technophobe, mais je suis pas pro-science non plus, parce que je sais que la technologie amène des dérives, et des fois on se dit si on veut pas ces dérives, et autant supprimer la technologie.
Ouais, j'utilise aussi les ordi quoi, mais avec les gamins tu vois, ils ont besoin d'un mot de vocabulaire, ils vont direct chercher sur internet au lieu d'ouvrir dans un CDI des encyclopédies.
Non, mais
le réflexe c'est direct d'aller sur l'ordinateur quoi.
Moi je pense que c'est des bonnes questions que tu te poses, s'il n'y a pas de pensée unique. Ça c'est un peu ce qu'a peut-être on donne, parce que c'est nous qui avons le micro et pas vous, à tout le temps rabâcher les mêmes choses, mais nous on donne de l'information, après vous en faites ce que vous voulez, et puis la technologie bon elle est présente, après on peut essayer de vivre sans. Il y en a qui le font sur plein de domaines, moi perso ça fait 10 ans que je fais des logiciels libres et ça me fait chier d'avoir un téléphone portable et je suis pas prêt d'en avoir un. Ben ouais, mais j'ai des contraintes parce que mes copains ils peuvent pas me joindre, etc. Je vis, c'est mon choix. Donc c'est la liberté, c'est ça. C'est je pense que là, j'ai posé la question à une fille qui était là hier. Qu'est-ce que c'était la liberté pour elle? Et elle me disait, on était arrivé à un consensus. C'était la liberté, c'est faire ce qu'on veut, mais à condition de savoir vraiment ce qu'on veut, ce qui est super compliqué. Parce que quand t'es dans un monde où tous tes potes ils sont machin, allez appelle-moi, et ton mobile, viens sur MSN, viens bloguer sur Skyblog et compagnie. Ben est-ce que c'est ce que tu veux vraiment, ou est-ce que c'est ce que tes copains veulent? Du coup, par mimétisme, tu vas peut-être reproduire des comportements qui sont pas ce que tu veux, quoi. Donc ça, c'est se poser des questions fondamentales. Je pense que c'est plus important que savoir utiliser telle version de tel programme. Par contre, si t'as des... Nous, on peut te donner juste l'information, et puis après, c'est toi qui vois. Mais avoir l'information, faire un choix éclairé, je pense que c'est toujours bien. Et les gens qui sont là, il n'y a pas que l'informatique libre, mais tout ce qui est alter étoile, on va dire, tout ce qui est voir les choses autrement, ça peut se passer que s'il y a la communication et l'information, quoi.
C'est là qu'on voit que c'est un choix de société, justement. On parlait tout à l'heure de choix de société et de politique. Il y a des raisons précises, c'est que c'est logiciel bonjour.
Hervé de Marsnet et de Globenet.
Oui, aussi. Et il y a un choix de société dans le sens où on a parlé d'autonomie des personnes, et c'est vrai que les logiciels libres sont des logiciels qui et l'internet libre propose de l'autonomie avant tout, que ce soit un chemin, je pense qu'on a tous un chemin à faire vers l'autonomie dans une société qui crée de la dépendance comme celle dans laquelle on vit, qui est une société marchande. Donc ça c'est la première des choses, et bien sûr on peut pas être autonome sur tout, et c'est là que c'est intéressant, parce que ce choix de société propose aux personnes notamment de partager les connaissances et de partager également la possibilité d'être aidé. Parce qu'on parlait tout à l'heure de la liste de discussion, de dire que bon, même si on ne connaît pas quelque chose, on va pouvoir le trouver, c'est pas sur des forums, etc. Et c'est donc un des
piliers. C'est de moins en moins vrai.
Un des piliers aussi de ces logiciels libres, de ce choix de société, c'est l'entraide. Alors, il y a une entraide, c'est vrai, sur les forums, parfois c'est un peu difficile, parfois on a affaire à des spécialistes qui considèrent qu'on devrait faire recours plus à l'autonomie et chercher nous-mêmes dans différentes documentations, et ils prennent pas le temps de nous répondre. Mais bon, quelqu'un peut être sur le réseau a déjà donné la réponse et elle est quelque part, ou alors quelqu'un peut-être aura le temps de la donner, pas dans les 5 minutes, pas si tu as une hotline que tu payes 40 milliards de dollars par partant précis, mais au contraire, voilà. Et puis on parle de, aujourd'hui de proximité, parce que justement il y a tous ces réseaux Linux qui se sont développés en France et qui permettent de mailler le territoire au niveau de la connaissance et du rapport aux personnes, parce que c'est quand même dans la proximité qu'on a un passage de, la, de l'information qui se fait le mieux. Donc ça c'est intéressant. Et le complément de ce triptyque politique, c'est la coopération, c'est-à-dire faire ensemble des choses, coopérer et non plus collaborer, c'est-à-dire avoir du labeur ensemble, mais plutôt du plaisir à faire ce que l'on fait et à le faire ensemble. Donc ça aussi, ça procède du choix de société. C'est clairement, à mon sens, une dynamique qui se retrouve aussi dans les encyclopédies avec Wikipédia. On a dit que ça pouvait concerner, bien sûr, les licences libres au niveau de l'art. Et ça, c'est un choix de société qui se fait individuellement. On a un rapport à ça, après, il ne faut pas culpabiliser. On a chacun notre chemin, venant de là où on vient, de la société dans laquelle on vient, qui cherche à ce qu'on soit pas trop averti et qu'on puisse être uniquement des consommateurs. Là, on devient des personnes de plus en plus averties, autonomes dans notre pensée, grâce à l'usage de ces logiciels. Et après, à chacun de faire son chemin et de trouver au niveau technique le niveau avec lequel il peut se trouver le bon compromis.
Merci Hervé. Hervé, c'est excellente conclusion, presque. Il nous reste 12 minutes.
Alors en fait, moi je j'envoie direct. Alors ça, je pense que tout le monde est assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Maintenant, on voit souvent des gens qui disent, voilà, la philosophie du libre, l'éthique, ça me plaît bien. Maintenant, techniquement, bah, voilà, moi je suis graphiste, je suis pro. Est-ce que je peux pas me permettre d'utiliser des logiciels pas pro, quoi? En gros, c'est un petit peu ça. On entend souvent les suites Apple, etc. Bon, je critique pas non plus, mais voilà, essayer de concilier les deux. Bah, la question qui se pose, c'est voilà, quelle solution? J'en profite pour recentrer un peu le débat. Du coup, c'était une des questions qu'on voulait poser. Voilà, quelle solution il y a pour un petit peu centrer tout ça, quoi, faire du libre et de la production artistique en même temps, quoi. Voilà, donc je laisse.
Je peux poser ma question là.
Oui, vas-y.
Mais donc c'est deux questions en fait, mais qui sont tout à fait liées. Pour les hébergements libres, que ce soit libre ou pas, j'imagine que vous avez des coûts, notamment les coûts de serveur. Donc qui supporte ça? Ça peut être payant, je sais pas du tout, et ça serait pas choquant en soi. Si ça ne l'est pas, comment vous faites face à vos charges? Et côté logiciel, la question qui me taraude depuis longtemps, c'est est-ce que tout ce que vous développez, je crois que j'ai plus de micro, non, tout le travail que vous faites pour contribuer à Linux ou aux différents logiciels libres, est-ce que c'est nécessairement en plus d'un travail alimentaire? Est-ce que ça ne peut être que du bénévolat ou est-ce que vous pouvez en vivre?
La grande question. Alors, les hébergements, qui veut répondre? Voilà, allez, Hervé de GlobeNet.
De GlobeNet en premier, et puis de Asodev Marsnet sur Marseille. GlobeNet étant une association nationale qui fournit des services internet aux associations depuis 1994. Donc avant que certains sites que vous connaissez bien français fonctionnent. Donc l'hébergement, c'est en fait un ensemble de services qu'ils ont fournis aux associations qui va être alternatif aux services commerciaux. Ils sont probablement de qualité identique, si ce n'est parfois meilleure qualité sur certains domaines, et surtout qui reposent sur une éthique. Bon, cette éthique, elle n'est pas mondiale avec une seule voix. C'est chaque hébergeur va avoir quelque part une charte, une façon de fonctionner, une éthique qu'on pourra retrouver quelque part sur ces pages. Bon, l'hébergement a un coût. Ce coût, il y a plusieurs manières de le financer, notamment dans le principe coopératif justement et de contribution. Ce qui fait qu'en fait, l'ensemble des personnes vont avoir un service qui sera au minimum gratuit et payant principalement par contribution. Voilà, en fixant des niveaux de contribution un peu comme ici. C'est-à-dire que si on a un site qui, pendant quelques mois, une association ne peut pas payer son hébergement ou a oublié pendant 6 mois ou 1 an, ça arrive. Sur GlobeNet, on a eu même 2 ans de non-paiement, je vois, avant que l'association ait la possibilité de payer son hébergement. Il est hors de question de couper le site, par exemple, de faire quelques pressions que ce soit. On fait des rappels, attendez, Il faut dire que ça coûte 3-4 euros par mois, par exemple, d'héberger un site si on répartit un peu sur la masse. Voilà. D'autre part, il y a des associations qui reçoivent beaucoup d'argent, enfin qui ont pas mal d'argent, et qui, elles, veulent du service professionnel. Donc à ce moment-là, on va leur tarifer un service qui sera de toute façon moins cher que le service commercial, parce qu'il n'y a pas de profit. En fait, là aussi, il y a un choix de société à avoir affaire à des associations ou à des coopératives qui ne vont pas à rechercher à faire des bénéfices et des profits des actionnaires qui sont quelque part, mais qui restent dans un réseau d'utilisateurs. Donc ça aussi, c'est un choix de société. Je pense que c'est ouais, pratiquement toujours moins cher.
Ouais. Et sur le deuxième point, Florence.
Au niveau des contributeurs, parce qu'il n'y a pas que les développeurs hein, pour les logiciels libres, il y a les contributeurs, il y a ceux qui traduisent, il y a ceux qui conçoivent, il y a ceux qui forment, ceux qui installent, ceux qui font la traduction, la documentation, il y a plein de choses. Et ils ont plusieurs motivations pour ça, qui sont des motivations éthiques, d'une part, donc tout ce qui est solidarité, liberté, partage de savoir. Il y a des motivations qui sont personnelles, notamment par exemple le mérite, la renommée, hein, ça peut être intéressant pour la profession. Il y a ludique aussi, hein, beaucoup de gens aiment bien faire ça pour s'amuser. Financière, il y a tout ce qui est les retombées en fait, c'est-à-dire que il y a les services qui sont liés au développement du logiciel libre, tout ce qui est par exemple installation, formation, distribution, communication, et puis tout ce qui est pour aider à l'usage en fait du logiciel libre. Et puis dans la création de site, il y a tout ce qui est création de site, qui est aussi des services qui est lié au développement du logiciel libre. Voilà. Donc et ce que je voulais dire aussi pour compléter un petit peu ce que disait Hervé par rapport puis répondre aussi à la question sur les artistes qui demandent pourquoi utiliser un logiciel libre ou les militants, les associations qui disent mais pourquoi utiliser le logiciel libre. Nous, à Marsnet, on s'adresse beaucoup aux militants et aux associations. Et l'intérêt pour les militants, les associations, les artistes, d'utiliser les logiciels libres, c'est bien sûr, d'une part, tout ce qui est lié au côté éthique. On a parlé tout à l'heure de coopération, de partage de savoir, de proximité, tout ce qui est lié à... tout ce qui est lié aux valeurs solidaires, notamment le fait aussi que ça soit réalisé dans un but non marchand, dans un but de partage de savoir, le fait que ça soit accessible, donc avec un usage facilité par l'entraide dont on a parlé tout à l'heure, le fait qu'il y ait un but qui soit pour l'autonomie. On fait souvent le parallèle à ce qui marche bien dans le milieu associatif, c'est un parallèle avec Monsanto qui est donc la grosse multinationale qui en rend dépendant les paysans en leur imposant d'utiliser les graines provenant de Monsanto. Donc il est interdit de pouvoir utiliser leurs propres semences. La Microsoft, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que Microsoft impose l'usage de ces logiciels en rendant les utilisateurs dépendants d'une nouvelle version, et puis même avec la ventilée, avec les ordinateurs. Donc il y a aussi des valeurs ça va ouvrir des emplois locaux. On n'est pas dépendant d'un éditeur qui se trouve aux États-Unis. On peut faire des emplois locaux avec tout ce qui est la formation, l'installation. Donc pour les pays africains, c'est super quoi, les logiciels libres, parce que ils sont plus dépendants des États-Unis. Ils peuvent eux-mêmes créer des services localement. Il y a plein de pays du Sud qui utilisent les logiciels libres. Pour eux, c'est impensable d'utiliser les logiciels propriétaires. C'est trop cher, c'est inaccessible, c'est voilà quoi. Et puis ils sont pas pieds et poings liés comme nous quoi. Donc c'est plus facile pour eux à la limite quoi. Donc voilà un petit peu les différentes motivations pour les associations. Bon, le fait aussi que dans les logiciels libres, les développeurs peuvent aussi créer des logiciels qui sont particuliers à leur propre usage. Comme par exemple, pour la création de sites, il y a SPIP, qui est un logiciel de création de sites spécifique qui est très utilisé dans le milieu associatif. Wiki aussi, donc on peut créer des outils spécifiques pour les militants, quoi, pour voilà, c'est un peu les avantages.
Merci Florence, qui veut rebondir. Il nous reste 2 minutes.
Je peux ajouter rapidement un détail, j'en aurai même pas pour 1 minute ou 30 secondes. La question était aussi de savoir si on pouvait vivre de son travail dans le logiciel libre. Moi, j'ai un cas concret où je collabore avec avec 2 personnes qui Sophie Gauthier, donc qui est une des principales, la personne qui représente OpenOffice aux yeux de beaucoup. S'en occupe le plus. Anthony, je sais plus son nom, qui s'occupe de Kubuntu, donc qui sont quand même des gros agents au milieu de ces logiciels-là, et qui sont embauchés par des sociétés de services en logiciel libre, qui en fait leur a signé un contrat 3-2. Ils sont en temps plein, mais ils travaillent 3 jours pour l'entreprise et 2 jours pour leur logiciel communautaire. Donc voilà, c'est pas le cas de tout le monde, c'est pas mon cas à moi, mais c'est une opportunité qui est parfois offerte.
Il faut savoir aussi que certaines entreprises prennent conscience que plutôt que payer des licences, vaut mieux faire nourrir une famille en employant 2 informaticiens, par exemple, qui vont adapter le logiciel à leurs propres besoins et leurs propres soucis de production.
Sur l'Afrique, dont parlait Florence tout à l'heure, rapidement, malheureusement, ce qu'on peut constater, c'est qu'au contraire, le logiciel libre est très peu utilisé en Afrique, ce qui est paradoxal, quoi. Et donc, il y a un gros travail à faire là-dessus.
Oui, peut-être pour terminer plus ou moins. C'est vrai que le débat a une forme un peu, c'est un peu le bordel. Vous devez trouver que c'est chacun essaye d'avoir son mot à dire et c'est peut-être pas forcément très très facile de pouvoir poser ses questions et tout ça. Mais c'est vrai que on n'avait pas prévu. Au départ, c'est vrai que c'était quelque chose où tout le monde allait un peu présenter ce qu'il avait à dire. Et pour les questions personnelles et tout ça, c'est vrai qu'on a la yourte informatique qui est là-bas et il y aura toujours du monde. Et c'est vrai que je voulais dire que c'était surtout ça un peu la force du logiciel libre, c'est que c'est communautaire. C'est contrairement à tous les logiciels que vous avez ou vous avez à faire en face de vous une entreprise, le logiciel libre, ça a été construit donc par une communauté et les utilisateurs aussi forment des communautés, parce que souvent on parle des communautés de développeurs, mais ça fait sûrement peur aux gens, parce que les développeurs font peur aux gens peut-être, mais il existe plein de communautés sur Internet, vous vous retrouverez jamais seul. Souvent les gens en fait se disent ils ont Windows et s'ils installent Linux, ils vont se retrouver isolés, tous les gens autour d'eux, les poitrons du doigt, c'est qui toi tu utilises quoi. Mais le logiciel libre, c'est plein de communautés sur Internet, dans la vraie vie aussi, puisque aujourd'hui, vous voyez, nous, donc, on fait tous plus ou moins partie de groupes d'utilisateurs de Linux qui aident les gens en fait à passer à Linux, ou ceux qui ont des problèmes ou ceux qui veulent des renseignements sur des logiciels libres, et vous en trouverez partout en France. Et c'est vraiment la philosophie de chacun s'aide, tout le monde travaille ensemble pour utiliser, améliorer tous ces logiciels, et vous pouvez toujours trouver plein de gens. Et donc entre autres nous pour ce week-end à la yourte, et pour finir aussi, s'il y en a certains qui veulent passer à Linux, comme on disait tout à l'heure, bon, il n'y aura pas d'installation, je pense, parce que je pense pas que quelqu'un ait amené son PC dans le coin, mais on aura des CD à distribuer. On a un PC, mais on aura des CD à distribuer dans les yourtes informatiques, et vous pourrez à ce moment-là aussi nous poser vos questions, parce que c'est vrai que vous avez peut-être pas eu le temps là de savoir, enfin, de poser la question sur tout ce que vous voulez savoir, donc n'hésitez pas à passer tout le week-end.
Je vais préciser ensuite les petits mini-ateliers qui sont prévus. Merci, ça se termine le premier débat. Merci à Benjamin, Johan, Philippe, les 2 Benjamin, Gilles, Christophe, Yannick, Florence, d'être intervenus, ainsi que les gens du public. Cet après-midi, donc, on a mis au point quelques petits ateliers sous la yourte informatique. Le premier atelier, c'est passer au libre, un cas concret. Et puis deux cas concrets même, on va dire. Ensuite, il y a donc consommer plus librement en informatique, et notamment le problème de la vente liée d'ordinateurs. Et la troisième, pour cet après-midi, le troisième atelier, c'est la création vidéo et audio sous Linux. Demain, à partir de... Enfin, demain après-midi, intercalé avec les débats ici, les mini-ateliers continueront avec la publication en ligne, libre, la gestion des droits collectifs, les droits d'auteur. Et puis, il y en a un autre. Et là, pour terminer, les femmes et l'informatique libre. Voilà, nous vous souhaitons un bon appétit, s'il est temps. Je pense que tout le monde a rien à ajouter.
Parce qu'on a beaucoup parlé, mais on vous a pas écouté, donc. Qui ici qui n'utilise pas de logiciel libre, qui sait même pas que ça existe, etc. Est-ce que vous pouvez vous dénoncer? Donc, on n'est pas nombreux, ok. Après, parmi vous, vous avez peut-être utilisé des logiciels libres sans même le savoir. Par exemple, il y a un programme qui s'appelle Firefox, là, qui est en train de devenir le navigateur Internet par défaut, souvent dans plein de systèmes. Mais ça, c'est un programme libre. Les gens le savent même pas. Pour eux, c'est un produit concurrentiel. Donc, vous le côtoyez, hein? VLC, ouais. Donc c'est quelque chose qui est en train de... C'est en train d'inonder votre quotidien, typiquement. Même, il y a même des téléphones qui fonctionnent avec des logiciels libres, etc. Par contre, bon, c'est pas un produit comme les autres. Il est un peu différent. Il a un processus qui est différent. Et nous, on essaye d'expliquer ça parce que c'est pas très très simple. C'est rarement indiqué, quoi. Voilà. Donc, merci de votre attention et à cet après-midi, quoi.